Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume.
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec ton esprit.
Saint Évangile selon Saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Il disait encore aux foules, quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt la pluie va venir, et c'est ce qui arrive. Et quand c'est le vent du midi qui souffle, vous dites il va faire chaud, et c'est ce qui arrive. Hypocrite, êtes-vous capable d'apprécier l'aspect de la terre et du ciel? Mais ce temps-ci, comment ne l'appréciez-vous pas? Et pourquoi ne jugez-vous pas sur vous-même de ce qui est juste? Ainsi, lorsque tu te rends chez le magistrat avec ton adversaire, fais en sorte de te libérer de lui tandis que vous êtes en chemin, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'agent, et que l'agent ne te jette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là, que tu ne sois acquitté jusqu'au bout du tout dernier centime. Crois en Christ, parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Frères et sœurs, sommes-nous de bons météorologues? C'est pas pour vous. Mais je ne connais que quelques dictons populaires, soit hérités de mon enfance, que j'ai glané en Occitanie depuis 44 ans que j'y habite. Pendant mon enfance sartoise, on disait dans les campagnes « Brouillard en croissant, signe de beau temps, brouillard en cours, pluie en trois jours. » Le croissant et le de cours étant les mouvements de la lune. Dans la région toulousaine, lorsque se lève le vent du sud, le vent d'autant, on dit « c'est bientôt la pluie ». Quand on distingue nettement les Pyrénées sur la ligne d'horizon, c'est pareil. Les foules de paysans de Galilée auxquelles le Seigneur s'adresse dans le passage d'Évangile que nous venons d'entendre étaient elles aussi expertes en matière de météorologie populaire. À défaut d'être informé par les moyens numériques dont nous disposons aujourd'hui, car il en allait de l'avenir de leur récolte, comme pour les paysans d'aujourd'hui. Le Seigneur le sait bien, puisque cela fait plus de 30 ans qu'il vit au milieu d'eux. Quand vous voyez un nuage monter au couchant, leur dit-il, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Bien entendu, le Seigneur ne dit pas cela pour faire une exhibition de météorologie populaire. Mais sa remarque, d'apparence banale, est suivie, vous l'avez entendu, d'un très rude avertissement. Il faut noter pour le comprendre que le contexte dans lequel se situe cet épisode évangélique est le chapitre 12 de l'Évangile. Et ce texte conclut le chapitre 12. Et dans ce chapitre 12, le Seigneur s'adresse alternativement à deux types d'auditoires, l'un restreint, l'autre beaucoup plus large. Il parle tantôt à la foule, public large, foule immense, qui nous dit le verset 1, s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait les uns les autres. On peut imaginer cela. et souhaiter qu'il en arrive de même dans nos églises aujourd'hui, ou même à l'extérieur des églises, lorsqu'on prêche dans la rue. Donc ça, c'est le premier type d'auditoire. Allez. Tantôt, il s'adresse aussi, vous l'avez entendu, aux disciples. Alors, à la foule, dans les versets 1 à 3, il recommande de se méfier du levain, c'est-à-dire de l'hypocrisie des pharisiens. Il faut que chacun sache, nous fait comprendre Jésus, leur fait comprendre Jésus, que ce que vous avez dans le fond du cœur, ce qu'il y a dans le fond du cœur de tout être, ne demeurera pas éternellement secret, en particulier ce qui n'a pas de bon. À la fin, Dieu va dévoiler tout aux yeux de tous. La remarque peut valoir aussi pour les disciples, mais à partir du verset 4, c'est plus spécifiquement les disciples qui sont concernés. Il les appelle ses amis. Jésus les exhorte fortement à ne pas craindre, quoi qu'il arrive. Il leur faudra en particulier, et il en a été question ce matin, beaucoup de force quand viendront les persécutions et que plusieurs seront tentés de dissimuler ou d'abandonner leur foi. Ils devront sans cesse se souvenir, dit Jésus, que leurs cheveux eux-mêmes sont tous comptés par Dieu le Père. Puis, à partir du verset 13, en réponse, dit l'Évangile, à la demande de quelqu'un de la foule, donc à nouveau Jésus s'adresse à la foule, quelqu'un dans la foule voudrait que Jésus se transforme en juge, vous l'avez entendu, ou en notaire, pour obliger son frère à partager son héritage équitablement avec lui. En réponse, comme il fait souvent, le Seigneur raconte une parabole. On est bien connu, on l'a entendu ces jours passés, il s'agit de l'homme riche qui, en raison d'excellentes récoltes, projetait de construire de nouveaux greniers et ensuite de faire tranquillement la boum, mais auquel soudain Dieu dit « Insensé, cette nuit même on va te redemander ton âme. Et ce que tu as amassé, qui va l'avoir ?» La conclusion s'impose, est-ce que au verset 21, ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Alors, se tournant vers les disciples à nouveau, Jésus va leur dispenser plusieurs conseils. Celui de s'abandonner à la Providence, dans les versets 22-32. Celui de vendre tous leurs biens et de les donner en aumône, au verset 33-34. Et surtout, celui de se tenir prêt, en bon serviteur, pour le retour du Maître, au verset 40, vous aussi, tenez-vous prêt, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Conseil qui sert de conclusion à une autre petite parabole, celle du maître de maison qui n'a pas su veiller au moment même où le cambrioleur a surgi. C'est le verset 39. Alors Pierre, toujours impatient, lui pose une question qui lui brûle les lèvres. Seigneur, c'est pour nous que tu dis cette parabole ou bien c'est pour tout le monde, puisqu'il y a les disciples et il y a la foule autour. Comme il en a souvent coutume, Jésus lui répond encore par une autre parabole, celle qui met en scène, nous en souvenons, deux intendants auxquels leur maître a confié la gestion de tous ses biens en son absence. Le premier accomplit fidèlement ce qu'il a à faire, tandis que le second, voyant que son maître tarde, en prend à son aise, maltraite le personnel de service, etc. Logiquement, c'est un sévère châtiment qui attend celui-ci au retour du maître, tandis que l'autre sera récompensé par des responsabilités accrues. Le passage qui suit est celui que nous avons entendu hier soir. C'est une annonce de la passion et de l'affirmation déroutante selon laquelle dans chaque famille de la terre, il y aura de la division. Certains de ses membres se décidant pour Jésus et d'autres lui étant hostiles et lui disant non, on en reparlait encore ce matin. Alors, vous voudrez bien me pardonner d'avoir consacré du temps passé en revue l'ensemble du chapitre, mais on ne peut pas comprendre l'évangile d'aujourd'hui sans cela. Cet avertissement sévère que le Seigneur donne maintenant aux foules en les traitant d'hypocrites, qu'est-ce que le Seigneur veut-il dire? Finalement, ce qu'il veut dire, c'est qu'il les invite, elles aussi les foules, à se tenir prêtes, à savoir discerner, apprécier ce qu'il appelle le temps, ou dans suivant les versions de l'Évangile, ou le moment. Et plus que était dit ici, ce temps-ci. Voilà, ce temps-ci. Alors, il faut savoir que les traductions du terme temps, eh bien, ne nous disent pas en français, de toute façon, la différence qu'il y a en grec entre le temps de l'horloge régulier, qu'on appelle chronos, la chronologie, et du temps de l'histoire du salut, que Saint-Luc ici appelle kairos. On le voit, Jésus applique soudain à la foule le reproche qu'il faisait au début du chapitre aux pharisiens. L'insulte est forte, hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Donc c'est kairos. Alors les gens qui sont autour ne savent pas, selon Jésus, reconnaître, comme il disait au début de sa mission en Galilée, ne savent pas reconnaître le royaume de Dieu. Jésus leur a dit à plusieurs reprises, on le voit dans divers évangiles synoptiques, le royaume de Dieu s'est approché. Et en réalité, bien sûr, le royaume de Dieu qui s'est approché, c'est Jésus lui-même. Jésus qui réalise la prophétie d'Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, avec la suite que vous connaissez bien. Cette prophétie, il l'a dite à Nazareth au tout début de son ministère, en ajoutant, après sa lecture du rouleau d'Isaïe, « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » La plupart de ces gens qui sont là ont refusé, suggère Jésus, de se convertir, de changer de vie. Or, le kairos, le temps du salut, se fait court. Ça s'est dit dans l'Évangile de Saint Marc, chapitre 1, verset 15. Avec la venue de Jésus, le moment du jugement approche. Bien sûr, les foules ignorent totalement l'eschatologie que Jésus propose là. Elles ne connaissent pas la signification des événements qu'elles vivent, alors qu'elles connaissent pourtant quand même les prophéties, elles ont entendu plus ou moins les prophéties sur le jour du Seigneur que l'on trouve dans les prophètes. Et Jésus leur dit, mais au lieu de vouloir aller devant un magistrat pour régler vos problèmes matériels, ce que vous devriez rechercher, c'est la paix, et vous préoccupez d'abord du salut de votre âme. En les avertissant avec si grande sévérité, Jésus invite donc ses auditeurs à être ce qu'on pourrait appeler des bons météorologues de leur âme, à se convertir, à cheminer humblement à la suite du Christ, comme nous entendons saint Paul souhaiter le faire dans la première lecture extraite de la lettre aux Romains. Dans ce passage, vous l'avez entendu, l'apôtre décrit le chemin spirituel dans lequel les chrétiens doivent s'engager. Chemin de foi, chemin d'espérance et de charité, comme nous l'avons entendu. Chemin dans lequel chacun est appelé à exercer sa liberté et à combattre avec l'aide de l'Esprit-Saint, comme nous le verrons demain. Précisément, saint Paul décrit l'expérience douloureuse de ce combat personnel incessant dans lequel il nous est facile de nous reconnaître. Nous voulons faire le bien, et au contraire, la force nécessaire pour l'accomplir nous manque. Nous voulons faire le bien, et au contraire, nous faisons très facilement le mal que nous ne voudrions pas faire. Paul va jusqu'à dire qu'il n'est lui-même pas habité par le bien, mais par le mal, bien entendu. Il est prisonnier, dit-il, par elle, de la loi du péché. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Alors une constatation de ce style pourrait tous nous conduire au désespoir. Si on oubliait que jusque-là, Paul, en fait, a décrit la vie de l'homme sans le Christ, et donc soumis au péché, même s'il connaît les commandements de Dieu exposés dans la loi mosaïque. Mais, dans la lettre aux Romains, le chapitre 8, qui fait suite immédiatement après le texte que nous avons entendu, qui est la fin du chapitre 7, eh bien, là, il décrit dans ce chapitre 8, il décrit à l'inverse la vie du croyant dans l'esprit. Et les deux premiers versets qu'il introduit sont à son égard très éclairants. Romains 8, 1, versets 1 et 2. Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. La loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors évidemment, on a envie de dire, ouf, si nous le voulons, il nous est donc possible d'interpréter comme il le faut les signes des temps. Ou encore, comme le dit ailleurs saint Paul lui-même, de saisir le kairos. Je veux saisir, ou dit-il à ceux à qui il écrit, saisissez le kairos, saisissez le moment. C'est, je pense, ce que chacun de nous essaie de faire dans toute sa vie. C'est en tout cas ce que nous essayons de faire en ce temps privilégié de retraite, dans la suite de cette Eucharistie et dans les jours qui suivent. Demandons donc à l'Esprit Saint de nous éclairer sur notre vie à la suite du Christ, de nous purifier et de nous sanctifier, tout particulièrement en recevant son corps immaculé et son sang très pur, et aussi en l'adorant. Demandons également à la bienheureuse Vierge Marie, la toute pure, d'intercéder pour nous maintenant et jusqu'à l'heure de notre Pâques. Amen.